Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Louis. Au panthéon des vidéos qui me font hurler de rire, il y a cette pub qui trustait il y a 15 ans tous les best-of à la télé. C'est une pub pour une marque de fromage qui était diffusée à la télé égyptienne, où l'on voit un panda géant venir terroriser tous ceux qui disent non à un morceau de ce fameux panda cheese. Il y a notamment une scène dans un open space, quelque chose des années 90, où le panda retourne un bureau, balance un ordi, sans cri, sans son, dans le plus grand des calmes. Au-delà de l'anthropomorphisme que je trouve hilarant, j'adore voir cette montée de nerfs se faire à bas bruit. Une colère sans visage déformé, sans bave aux lèvres et sans hurlement. En réalité, la colère s'exprime rarement comme ça, et particulièrement dans les relations au travail. Au bureau, la colère, ça s'apparente plutôt à ça.
Moi, je suis au rez-de-chaussée, et là, j'entends mais quelqu'un mais qui descend mais en trombe. Ça fait un boucan pas possible, mais dans tout le bureau, sur les étages. Et là, il commence à me hurler dessus parce qu'il n'est pas d'accord avec ma façon de rédiger un email, parce qu'il estime que j'ai pas utilisé le bon mot de vocabulaire, que j'ai pas utilisé sa tournure, sa façon de faire, son style. Et ça, il le fait devant mon équipe. Donc, un, c'est humiliant. Deux, ça me décrédibilise. Et surtout, en fait, ça commence à me terrifier.
Selon la dernière vaste étude Global Workplace de l'Institut Gallup, 17% des salariés français interrogés concèdent que la veille, ils étaient en colère une grande partie de la journée au travail. 17% dit comme ça, ça semble pas énorme. Mais c'est quasi 2 salariés sur 10 qui sont en colère une grande partie de la journée. Ce qui est marquant dans cette étude internationale, c'est que les Français ne sont pas du tout les plus grognons, les plus colériques. Pour ce qui est de la colère ressentie au travail, ils se classent même en dessous de la moyenne mondiale. Ce que ça dit, c'est que la colère au travail, elle est omniprésente. Elle peut exploser pour une cafetière qui n'y répond plus ou pour un client qui ne règle pas ses factures. Elle peut être illégitime, mais aussi très légitime.
Moi, j'estime qu'une colère dans le cadre d'un dossier pénal ou dans le cadre d'un dossier droit de l'enfant, moi, je trouve qu'elle est légitime, elle est nécessaire, elle est utile.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de sa colère au travail ? Avoir le nombre de posts LinkedIn consacrés au sujet et l'explosion des formations pour gérer sa colère et faire face à celle de son interlocuteur, ces ateliers pratiques où venir accoucher ton intelligence émotionnelle, la colère ne devrait jamais passer la porte du bureau. La question c'est, du coup, est-ce qu'il faut la supprimer ? Est-ce qu'il faut bien se tenir et surtout réfréner sa colère parce qu'elle crée du désordre ? Mais si elle est quand même là, on en fait quoi ? Je suis Raphaël Elkrief, bienvenue dans Émotion au travail.
Je travaille dans une start-up, enfin je dirais que c'est plutôt une PME, mais qui a gardé son esprit start-up. Je travaille dans le digital. J'ai une équipe que je gère et je m'occupe du développement commercial de la société. Donc dans cette structure, il y a un fondateur, bien sûr, il y a une équipe de direction. Ce fondateur, il est charismatique, il emmène la boîte. il emmène ses équipes. C'est ce qui fait que aujourd'hui la société, c'est une belle boîte, hein, c'est une belle réussite surtout dans ce secteur. Et donc on fait un rendez-vous ensemble. Ça fait très longtemps qu'il n'est plus sur le terrain, puisque lui il s'occupe plutôt des enjeux, enfin de la stratégie. On fait ce rendez-vous ensemble et je fais un email de suivi. C'était quoi, quelques heures après le rendez-vous. Et en fait tout d'un coup, il est au troisième, moi je suis au rez-de-chaussée, et là j'entends quelqu'un qui descend en trombe. Ça fait un boucan pas possible, mais dans tout le bureau sur les étages. Et là, il commence à me hurler dessus. Mais quand tu arrives, que tu fais tes preuves, que tu es une employée, une salariée qui est investie, qui va participer à la vie de la boîte, les soirées, etc., tout va bien. Quand tu réussis, quand tu signes des contrats, tout va bien. Et le jour où tu as des difficultés, le jour où tu ne rentres plus dans le cadre, le jour où tu veux mettre un coup de pied dans la fourmilière, le jour où tu veux un petit peu changer les choses, c'est là où, ce fondateur, il y a un autre visage. Tu pouvais être convoqué dans son bureau et tu te prenais un savon. Et donc, moi, quand je suis arrivée dans cette boîte, où on m'avait décrit d'ailleurs une ambiance très apaisée, très familiale, ce qui est vrai, hein, par ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre. Mais au bout de quelques semaines, je me souviendrai toujours de cet épisode où deux, trois personnes ont été convoquées et se sont fait, mais littéralement, hurler dessus. Et en fait, on était tous sur un plateau, donc on entend tout. Et il y a cette espèce d'ambiance glaçante pour le reste des équipes. Et en fait, dès qu'il m'appelait dans son bureau, j'avais une boule au ventre. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? À quelle sauce je vais être mangée? Est-ce que je vais en prendre pour ma pomme? Et du coup, je trouve que ça nous a mis dans une relation qui, pour moi, était très malsaine, en fait, dans nos rapports au travail. Puisqu'à chaque fois que j'allais le voir, j'étais terrifiée, j'avais peur, j'arrivais pas à lui dire les choses. Et en fait, l'ADN de la boîte fait que quand on intègre cette start-up, cette PME, cette société, on est emporté, en fait, par le discours qu'il porte, qui fait du bien, où t'as l'impression d'appartenir à un tout, d'appartenir à une aventure. Et donc, on est convaincu que c'est la meilleure boîte du monde. Donc, quand il y a de la colère, quand il y a de l'agression, c'est pas grave. Lui, il est en grand Manitou, c'est un peu le messie. Et puis, tout le monde lui voue un espèce de culte et on pardonne. C'est pas grave parce qu'à côté de ça, regarde comme aujourd'hui, c'est une belle boîte. Regarde tout ce qu'on a accompli. Et puis, finalement, oui, il est colérique, mais il y a aussi plein de moments où il n'est pas colérique. Évidemment. C'est des épisodes, c'est pas tous les jours. C'est en fonction, est-ce qu'il s'est bien, est-ce qu'il est bonne humeur? Est-ce qu'il est bonne humeur? Est-ce que ça s'est bien passé peut-être chez lui? Et si ça s'est mal passé, déjà, il arrive de mauvaise humeur et là, on sent qu'il y a quelque chose.
Vous le savez sûrement, mais la colère fait partie de ce que l'on appelle les 6 émotions primaires. Celles qui apparaissent au cours de la première année de vie du nourrisson. Un bébé, ça peut être joyeux, triste, dégoûté, ça peut avoir peur, ça peut être surpris, et ça peut se mettre en colère aussi. L'expression « faire une colère » d'ailleurs, on la prête plus facilement à un bébé à qui on a retiré un jouet qu'à un adulte en costume 3 pièces. Pourtant, en grandissant, la colère, elle continue, tout comme la peur, la tristesse ou la joie, à traverser tous les individus.
Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la colère, c'est une émotion. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est au départ un mécanisme de préservation. C'est tout à fait normal d'éprouver des émotions.
Docteur Jérôme Palazzolo, médecin psychiatre.
D'ailleurs, il y a Damasio qui a beaucoup écrit sur les émotions et qui avait écrit un papier assez amusant, mais très sérieux aussi, et qui disait que si nous n'avions pas d'émotions, notre durée de vie serait à peu près de 10 minutes en fait. C'est-à-dire que si je n'ai pas de colère, si je n'ai pas d'anxiété, si je n'ai pas de joie, j'ai pas de capacité d'interagir avec l'environnement et donc automatiquement, et je peux me retrouver en grand danger. Donc en fait, la colère, c'est une émotion tout à fait normale qui doit être présente et qui vise à nous préserver. Là où ça va poser problème, c'est lorsque la colère, on n'arrive plus à la gérer, lorsque la colère nous déborde. C'est-à-dire que le souci, c'est quand on est débordé par ces émotions et qu'on n'est plus apte à ce moment-là à réfléchir, à raisonner d'un point de vue cognitif.
Ce qui change d'un individu à l'autre, c'est la manière de l'exprimer, de la refouler ou non, d'avoir besoin de la laisser sortir. Et dans le travail, certains ressentent un besoin impérieux plus que d'autres. C'est le cas du patron de Leïla, qui nous décrivait plutôt les accès de colère du fondateur de la boîte dans laquelle elle travaille, qui, quand tout va bien, est tout ce qu'il y a de plus charmant, mais qui, quand les choses ne vont pas dans son sens, peut avoir les fils qui se touchent et peut se mettre à terroriser son monde en piquant des crises. Alors certes, il y a des émotions qui nous traversent tous, et c'est une émotion basique. Mais quand même, ne devrait-il pas un peu plus contrôler ses accès de colère ?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans Le visage de nos colères, paru en 2022 chez Flammarion, la philosophe Sophie Galabru avance que toute colère est saine par essence. Elle est, selon elle, une émotion indispensable, qui a des fonctions précises et qui évite justement un passage à l'acte plus violent.
Après la Seconde Guerre mondiale, ça reste dans le commentaire médiatique, politique, parfois de la société civile, une émotion qui est très mal perçue, qui est vécue comme dangereuse. Dans les années 80 et 90, on entre au carré dans l'ère de la séduction, du sex appeal, de la consommation. On nous demande de nous tenir sages, séduisants, attirants, et surtout pas dans des postures de divergence et de désaccord, de conflictualité. Ça va de pair avec une chute libre, une baisse du syndicalisme et de l'organisation politique des revendications. Ça va de pair avec une surpsychologisation des rapports dans la vie intime et professionnelle et politique. On a toute une série d'appels à la bienveillance, à la résilience climatique, la résilience professionnelle, et se développe un coaching pour des communications non violentes, un appel aux émotions dites positives, telles que la joie, la surprise, et surtout pas l'émotion de la colère, par exemple.
Sophie Galabru explique qu'au travail, il y a des professions où la colère est plus ou moins tolérée, mais que le droit de l'exprimer dépend de règles professionnelles tacites.
Une sociologue comme Arlie Hochschild le montre très très bien dans son livre « Le prix des sentiments » qui est paru aux États-Unis en 1983. Elle étudie les divers métiers, elle montre que des règles sociales sont mises en avant, selon les métiers et les entreprises. On attend de certains métiers, par exemple comme les hôtesses de l'air, qu'elles soient toujours dans la joie, l'enthousiasme, la surprise, avec l'expression faciale du sourire. Alors qu'on attend des agents de recouvrement plutôt, effectivement, la colère, pour faire peur, pour effrayer. En fait, de la même manière qu'on impose des rôles sociaux en famille ou entre amis, de la même façon que la famille peut imposer d'être joyeux à une fête, d'être triste à un enterrement, d'éprouver de l'amour entre les membres de la même famille, on impose des règles émotionnelles dans les entreprises et dans certains métiers.
Nous, la particularité des avocats, notamment en droit pénal, c'est qu'on doit se battre quotidiennement pour que notre client ait le respect qu'il mérite, qu'il n'y ait pas de mépris, qu'il n'y ait pas de droits élémentaires qui ne sont pas respectés.
Déborah a 37 ans. Elle est avocate en droit pénal et en droit de l'enfant. Dans les tribunaux de Paris et de la région, ses accès de colère commencent à être bien connus de ses confrères et des magistrats. Et ce qu'elle ne serait pas contre réfréner un peu dans l'intimité, hors de question de l'interroger dans son cadre professionnel, où c'est pour elle un moteur nécessaire pour porter ses dossiers.
Donc forcément, quand on a l'impression qu'un magistrat ou qu'un autre avocat ou que quelqu'un dans la chaîne judiciaire peut lui manquer de respect, on peut s'agacer, et notamment en audience, avec des procureurs de la République qui se permettent de faire allusion à un passé du client qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui se permettent de nous sortir des dossiers d'il y a 10 ans qui n'ont évidemment absolument pas lieu d'être, pour justifier une condamnation, pour justifier une peine de prison. Et ce genre de procédé peut exaspérer et peut entraîner des explosions de colère chez les avocats, dont je fais partie. Moi, j'estime qu'une colère dans le cadre d'un dossier pénal ou dans le cadre d'un dossier droit de l'enfant, moi, je trouve qu'elle est légitime, elle est nécessaire, elle est utile et elle est aussi fondamentale, parce que on prend généralement la parole pour des gens qui sont dans l'incapacité de prendre cette parole, de se l'approprier, qui sont dans l'incapacité d'élever le ton.
Même si le métier d'avocat est une profession où la colère est acceptée, dans certains contextes, en audience par exemple, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres moments professionnels un peu plus classiques.
Dans le cadre de réunions professionnelles, par exemple, dans le cadre de conseils de l'ordre où je peux siéger, on va souvent me dire « le ton n'est pas adapté, le ton ne va pas, donc on ne t'écoute pas ». Et j'ai eu le cas il y a 3 jours, où on m'a dit « je refuse qu'on me parle comme ça », et où un autre confrère s'est levé à claquer la porte en disant « je quitte le conseil de l'ordre, moi, dans ces conditions », et où le bâtonnier a dit « bon non, enfin ça va, le ton n'était pas si fou quand même, on a connu pire ». Il dit « ouais, mais c'est pas pour ça que je dois m'habituer ». Et j'ai dit, mais moi, je changerai pas. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où c'est respectueux, où il n'y a pas d'insultes, où les propos sont respectueux, je ne vois pas pourquoi je changerais mon ton. Il est comme ça, il me définit et j'en changerai pas. Enfin.
Effectivement, on peut se dire que tout ça ne doit pas être forcément très agréable à recevoir. Et c'est bien normal que ces interlocuteurs expriment leur mécontentement. Mais pour Déborah, il y a aussi autre chose. Quelque chose qui dérange dans le fait qu'elle soit une femme qui, justement, la laisse exprimer cette colère.
J'ai jamais été insultante, hein. J'ai jamais eu des mots qui étaient déplacés ou ce genre de choses. Mais vraiment, en me parlant de mon ton, on m'a beaucoup reproché ça. Et effectivement, les colères des hommes pénalistes sont toujours bien plus acceptées. Il me semble pas que qui que ce soit ait déjà reproché une colère, ni à l'Assemblée nationale, ni dans un prétoire à Éric Dupond-Moretti. Voilà.
Si on revient au genre, là encore, comme le montre Arlie Oshild, des métiers dits féminins ne supportent pas effectivement la gamme de la colère, de l'agressivité. On attend plutôt la mise en avant de l'émotion de la joie, de la surprise, et puis des sentiments très bienveillants. On valorise le care, le soin, l'écoute, la communication, l'esthétisme. Et même dans un métier comme l'avocaterie, où la colère est évidemment une émotion très motrice dans ces métiers, on peut avoir des femmes qui se trouvent culpabilisées ou mal perçues parce que elles sont trop en colère, trop agressives, et on les assimile à des hystériques, ce qui ne veut rien dire, hein. Alors, dans le langage courant, ça peut vouloir dire être démente, folle, surexcitée, manquer de maîtrise. Alors que l'hystérie, c'est un vieux terme de la neurologie et de la psychanalyse pour désigner une forme de névrose. Et qu'on relie à tort à l'utérus, et justement la psychanalyse et des neurologues comme Charcot ou Freud ont bien montré que ça n'avait rien à voir avec l'utérus et que on peut être victime de névrose d'hystérie, de névrose tout court en étant homme comme femme. Et effectivement, même dans des métiers politiques où la colère est évidemment, là encore, comme chez les avocats, un moteur de discours, de rhétorique, de combat, elle est très mal perçue quand elle vient d'une femme. On peut se souvenir de l'entre-deux-tours entre Sarkozy et Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy peut se permettre d'être dans la colère agressive, montrant qu'il a l'esprit de quelqu'un qui a de la poigne, de l'audace, un esprit entrepreneurial, alors qu'il va accuser Ségolène Royal de ne pas savoir se maîtriser, donc de ne pas savoir, sous-entendu, puisqu'elle ne sait pas se maîtriser dans un débat, elle ne pourra pas savoir gouverner un pays et le maîtriser. Alors que quand on regarde aujourd'hui le débat, elle est dans une colère tout à fait fondée, légitime, en lien avec l'injustice. Elle n'a rien d'un débordement démesuré.
La possibilité d'exprimer sa colère, c'est avant tout une question de place dans la société, et forcément dans une organisation. Homme versus femme, N+2 versus N-3. La colère est une émotion qui est acceptée, tolérée, oui, mais à certaines conditions, évidemment très désavantageuse à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale.
Il y a même un centre que j'ai découvert, le Centre international du coach en entreprise créé en 2005 en France. C'est un laboratoire de recherche appliquée qui démontre au fil d'enquête que l'émotion, alors non, n'est pas bannie de l'entreprise, mais effectivement, elle est encouragée différemment selon qu'on est dirigeant ou salarié, subordonné. Donc, selon le statut social, ce n'est pas la même chose. Le dirigeant peut se permettre les colères, l'agressivité, pour exprimer le fait de ne pas être satisfait de ses résultats, désapprouver des erreurs, réprimander, remobiliser ses troupes, encourager, remotiver. Lui peut se permettre cela, alors que des subordonnés ne peuvent pas se permettre l'émotion de la colère, qui va être vecteur assimilé à de l'indiscipline, de l'individualisme coupable, une prise d'autonomie beaucoup trop forte.
C'est pour ça que le patron de la boîte où travaille Leïla peut se permettre de hurler sur ses salariés sans être plus inquiété que ça, malgré les conséquences pour ses collaborateurs qui travaillent dans un environnement à la limite du harcèlement. Il est fondateur, il peut hurler parce qu'il a tout monté de ses mains, qu'il est charismatique, qu'il a pris des risques, qu'il mène la boîte d'une main de fer. Est-ce que Leïla pourrait se mettre en colère parce qu'on l'a humiliée devant ses équipes ou qu'elle trouve que la réunion ne va pas dans le bon sens ? Pas besoin de vous donner la réponse.
Il y a une condamnation à géométrie variable entre les hommes et les femmes, les gens socialement élevés, ceux qui ne sont pas, les plus jeunes et les plus vieux, c'est-à-dire qu'un adolescent ou un enfant qui se met en colère, surtout un adolescent qui mènerait des combats ou une colère contre l'injustice, notamment climatique, est perçu comme un individu dangereux, un électron libre, effrayant. Beaucoup plus qu'une personne âgée. On peut aussi penser des victimes, aux victimes du racisme. Et Mohamed Ali l'exprimait très, très clairement à la télévision. Il y a une séquence télévisée qu'on peut retrouver dans les archives de l'INA où il dit un noir qui s'énerve, qui monte de l'agressivité, qui a le recours à la punchline, est perçu comme quelqu'un qui va peut-être renverser la table, vouloir renverser l'ordre établi, semer le désordre, faire peur. Beaucoup plus qu'une personne blanche et privilégiée qui se montre véhémente, revendicative. Donc en fait, les personnes dominées qui ont précisément besoin de la colère et qui vont encore plus la ressentir que d'autres parce qu'elles sont opprimées, injustement, privées de liberté ou de leurs droits, eh bien ces personnes dominées qui ont recours à la colère, et on le comprend bien, sont discréditées dans ce recours-là par des personnes privilégiées qui bénéficient d'un ordre établi et qui ne veulent pas prendre le risque de voir un changement se faire, s'opérer.
Donc quand on n'est pas chef de sa boîte, qu'on n'est pas à une place sociale où la colère est admise, qu'est-ce qu'on fait quand on a les fils qui se touchent, qu'on voit rouge et qu'on n'est pas en mesure, à l'instant T, de dire les choses avec rondeur, avec le ton à la bonne octave et la poker face de circonstances?
Alors je vais refaire un parallèle avec mon métier, c'est-à-dire que parfois j'ai des personnes qui viennent me voir pour des problématiques de gros troubles anxieux, de grosses crises d'angoisse, etc. Et je leur dis d'emblée, je dis mais l'objectif c'est pas d'espérer supprimer l'angoisse parce que ce n'est pas possible, l'objectif c'est d'apprendre à la gérer, d'apprendre à mettre en place des stratégies pour pouvoir faire que cette angoisse ne vous déborde pas. C'est exactement le même principe pour la colère. C'est-à-dire qu'envisager une entreprise où il n'y a pas de colère, pas d'agressivité, c'est complètement utopique. Et même aux États-Unis, où ils prônent ce genre d'éléments, il y a quand même des problématiques de colère, des problématiques de stress, des problématiques de conflit. Et parfois, c'est même plus sain d'avoir un conflit ouvert, c'est-à-dire de s'engueuler un bon coup, plutôt que d'avoir des conflits larvés, d'avoir des tensions internes qui finalement peuvent vraiment abîmer la relation professionnelle.
Du coup, on en fait quoi? On s'inscrit à un stage de gestion de la colère? On va crier très fort dans un coussin? On attend 18 heures pour aller taper dans un sac à la salle quand on a la chance de pouvoir se payer un abonnement?
Il y a des sphères comme l'entreprise où on ne peut pas se permettre toutes les manifestations de la colère. Et on peut penser à des moyens pour éviter les débordements émotionnels et mieux les accueillir. Des propositions ont été faites, inspirées des sociologues comme Erwin Goffman, qui propose de mettre à disposition des lieux d'isolement. Parce que pour lui, les individus, dans toutes les sphères, la famille, l'entreprise, les individus jouent des rôles sociaux et portent des masques, sont des acteurs. C'est pas qu'ils sont hypocrites ou faux, mais ils ont besoin de ces masques préécrits, prédéfinis pour agir dans certaines sphères. Et cela prend beaucoup d'énergie psychique et physique. Et donc, on a besoin régulièrement de baisser le masque, d'entrer dans des coulisses pour se reposer, se délester. Le travailleur, le salarié a besoin d'une coulisse, d'une sphère isolée où il peut se détendre, se reposer, baisser son masque, réfléchir à ce qui s'est passé pour lui, identifier ses émotions, les accepter, les exprimer dans son tête-à-tête pour mieux repartir sur la scène sociale. La verbalisation par écrit ou par oral est capitale dans l'enceinte du travail. Et on peut inciter, via des coachs, pourquoi pas, et des médiateurs, on peut inciter à cette verbalisation orale et écrite des doléances des salariés. Là où le management de l'émotion vise quelque chose de juste, c'est que l'émotion existe, qu'elle circule dans les corps, y compris des salariés, qu'elle peut avoir parfois un impact ou une influence contagieuse sur les autres. C'est sûr, une émotion de tristesse, de peur, peut très vite se propager parmi les autres. Il peut y avoir alors de la dérégulation émotionnelle. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas uniquement imposer des gammes d'émotions aux gens. Parce que ça va déréguler tout à fait pareillement les corps et les esprits. On ne peut pas sommer à la joie tout le temps en permanence. Il faut laisser les gens libres de leurs émotions. Ce qui importe, c'est qu'ils soient capables de les identifier, de les assumer sans avoir de crainte, sans être culpabilisés pour que cela passe. Parce que l'émotion est passagère. Et puis, il faut aussi accepter qu'il y a des conflits juridiques et politiques dans une entreprise et divergences professionnelles et qu'on ne peut pas uniquement sans référer à la psychologie individuelle et appeler à la résilience et au divertissement. Non, il y a des prises de parole écrites et orales qui peuvent avoir lieu avec des représentants du personnel, des syndicats, des médiateurs, des coachs, pour justement recréer du conflit mais au sens positif.
Depuis qu'on a enregistré son témoignage, Leïla, qui subissait les colères de son patron, a décidé de quitter l'aventure. Elle ne tolère plus de travailler dans une atmosphère glaçante et préfère aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, dans un endroit où l'on gouverne sans peur et où ceux d'en dessous peuvent s'exprimer. Sa propre colère n'avait tellement plus d'espace et a tellement été refoulée qu'il n'y avait pour elle pas d'autre issue possible. Au travail, l'enjeu globalement, c'est de réussir à exprimer la colère qu'on ressent toutes et tous au quotidien et qui, en fonction de notre place dans la hiérarchie ou dans la société en général, peut être disqualifiée et discréditée. Mais là où l'exercice d'équilibriste intervient, c'est de pouvoir exprimer sa colère tout en prenant l'autre en compte, en se demandant si la personne en face a les moyens d'y répondre sans se laisser écraser ou sans se sentir complètement humilié. L'autre enjeu, c'est que les sphères de pouvoir tolèrent, acceptent, voire encouragent l'expression de cette colère chez ceux qui la ressentent, sans que ça ne les inquiète plus que ça, car rappelez-vous, c'est une émotion primaire, saine, qui passe, pour peu qu'on la laisse s'exprimer. Je suis Raphaël Alcrieff et vous venez d'écouter Émotions au travail. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage, la réalisation et le mix ont été faits par Louis Jobard. Louise Emerlé est à la production. À bientôt.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.